Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez, en principe, la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite prêché avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour toute personne qui l'écoute.
Nous aurons maintenant les lectures en vue de la prédication. Donc, nous lisons une première fois, nous lisons dans l'épître au Philémon tout entière cette épître, et puis nous reviendrons pour lire les versets spécifiques de la prédication. Épître de Paul à Philémon, premier verset. Paul, prisonnier pour le Christ Jésus, et le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé compagnon d'œuvre, à Appia, notre sœur, à Archip, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu en faisant mention de toi dans mes prières, car j'entends parler de l'amour et de la foi dont tu fais preuve envers le Seigneur Jésus et pour tous les saints. Je lui demande que la communion de ta foi devienne agissante et que tu reconnaisses tout ce qui, pour nous, est le bien en vue de Christ. J'ai eu en effet beaucoup de joie et de consolation à cause de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ beaucoup de liberté pour te prescrire ce qui convient, j'aime mieux te prier au nom de l'amour, tel que je suis moi, Paul, un vieillard, et de plus maintenant, prisonnier pour le Christ Jésus. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes, Onésime. Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant, il te sera bien utile, à toi comme à moi. Je te le renvoie, lui qui est une partie de moi-même. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place, pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait n'ait pas l'air forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être, en effet, a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé, surtout de moi et combien plus encore de toi, selon la chair et selon le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. S'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je te le rembourserai. Pour ne pas dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi ce service dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en me fiant en obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je te dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Epaphras, mon compagnon de captivité en Christ Jésus, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Voilà, allons maintenant dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, que nous connaissons bien, où Jésus dit qu'il est le cep Et nous lirons les 8 premiers versets de ce chapitre 15 de l'Évangile de Jean. Jean 15, verset 1. « Moi, je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Déjà, vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep, de même, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Moi, je suis le cep. Vous êtes, vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis l'on ramasse les sarments, et on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Voilà, et revenons à Philémon juste pour lire 4 versets qui seront la base de la prédication, les versets 4 à 7. Philémon, verset 4. « Je rends continuellement grâce à mon Dieu en faisant mention de toi dans mes prières, car j'entends parler de l'amour et de la foi dont tu fais preuve envers le Seigneur Jésus et pour tous les saints. Je lui demande que la communion de ta foi devienne agissante et que tu reconnaisses tout ce qui, pour nous, est le bien en vue de Christ. J'ai eu en effet beaucoup de joie et de consolation à cause de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. » Voilà pour les lectures en vue de la prédication.
Sans ondes, nos téléphones portables ne pourraient se connecter nulle part. Et il n'y aurait donc aucune possibilité de communication. Et bien de même, sans le Saint-Esprit, nous n'avons aucune communication de notre cœur à la parole de Dieu. Nous avons besoin de l'œuvre du Saint-Esprit ce matin encore et nous comptons sur lui. Nous continuons dans ce livre de Philémon, comme l'a dit Roland tout à l'heure. Et j'aimerais nous dire qu'avant de faire une recette, il faut rassembler les ingrédients. Peut-être que vous avez déjà vu des émissions culinaires, et généralement, avant de se lancer dans les recettes, eh bien, les cuisiniers préparent tous les ingrédients dont ils auront besoin. Eh bien, Paul fait de même ici avec Philémon pour la réconciliation qu'il désire entre Philémon et Onésime. Il prépare les ingrédients. Et lors de la première prédication que nous avons vue ensemble, nous avons pu constater les ingrédients qu'il a déjà commencé à mettre en place. Le premier, c'est que Paul se place comme médiateur. Ça, c'est un élément qu'on avait vu ensemble. Deuxièmement, Paul indique dans la lettre aux Colossiens que les destinataires de la lettre à Philémon ont entendu que Onésime est un frère fidèle, bien-aimé et un compatriote. Et c'est une annonce, en fait, que quelque chose a changé chez Onésime. Parce que sans ce changement, celui qui se révolte, qui s'est révolté, il ne pourrait pas y avoir de réconciliation. Et troisièmement, Paul écrit une lettre ouverte à toutes les personnes concernées, lésées, qui seront appelées à accueillir Onésime lors de son rétablissement. Rien n'est fait dans le secret. Donc déjà trois ingrédients. Un quatrième qu'on avait vu ensemble aussi, c'est que Paul parle de témoins qui réchauffent le cœur et qui donnent de l'espoir, avec le fondateur de l'Église qui est auprès de Paul, Épaphrodite. Hein. Et nous avons aussi même la mention de Marc, avec qui Paul avait pu vivre une réconciliation. Et enfin, nous avons ce que j'ai appelé le sandwich la dernière fois. Vous vous souvenez ? Le sandwich de la bénédiction, hein, où on avait en fait au début et à la fin la grâce de Christ qui est le fondement de toute réconciliation, comme le poignet de la main de l'artisan de paix. Donc ça, c'est cinq ingrédients qu'on a déjà vus dans les versets 1 à 3 la dernière fois. Et d'ailleurs, ces cinq premiers ingrédients, eh bien, sont déjà un appel au salut, en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà marqué, hein, ici. Si j'y vais rapidement, au travers ici, et j'aimerais vous dire, avez-vous déjà entendu cet appel ? Premièrement, Jésus est notre médiateur. Jésus est notre médiateur. Deuxièmement, nous avons besoin d'un changement, de reconnaître que nous sommes pécheurs. On a besoin d'un médiateur. Nous avons besoin d'un changement, de reconnaître que nous sommes pécheurs. Troisièmement, nous avons besoin d'être accueillis. Ne cachons donc pas notre histoire. Nous avons besoin d'être accueillis. Ne cachons donc pas notre histoire. Quatrièmement, de nombreuses personnes peuvent témoigner de leur réconciliation avec Dieu. Quel encouragement d'entendre ceux qui sont autour de nous dire « Mais Dieu m'a réconcilié avec lui en Christ ». C'est le quatrième élément, des témoignages qui nous encouragent à la réconciliation. Et cinquième élément, c'est le fondement de notre réconciliation avec Dieu et les autres, la grâce de Dieu. C'était ce sandwich des bénédictions, la grâce de Dieu. N'ayez jamais peur de vous approcher de Jésus-Christ avec un péché, le cœur repentant. N'ayez jamais peur de vous approcher de Jésus-Christ, le cœur repentant avec un péché. Parce que sa grâce est plus grande que nos péchés. Même si nos péchés sont graves et qu'ils ne doivent pas être minimisés. Mais sa grâce est plus grande. Et ma question pour chacun de nous ici présents, c'est « As-tu déjà goûté à cette grâce libératrice ? As-tu déjà goûté à cette grâce libératrice ? As-tu déjà été complètement en paix et heureux de te savoir pardonné, purifié, libéré, lavé ? » Eh bien, si c'est le cas, ben, n'hésite pas à témoigner de cette œuvre de Dieu dans ta vie et le transmettre à d'autres et continuer à montrer ce que Dieu fait dans ta vie. Et si ce n'est pas le cas, viens Jésus, dépose ton fardeau et il te libérera. Donc ça, c'est des ingrédients utiles, importants pour la réconciliation. Paul prépare tout ça. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons ensemble parler d'ingrédients essentiels pour la réconciliation qu'on trouve dans ces versets 4 à 7 dans Philémon. Et voici donc les ingrédients qui seront les points de notre prédication. Le premier que nous verrons ce matin, c'est la puissance de la prière, le verset 4. Ensuite, la foi manifestée par l'amour, le verset 5. Ensuite, la communion agissante, le verset 6. Et quatrièmement, le réconfort qui tranquillise, le verset 7. Le réconfort qui tranquillise. Donc commençons par la puissance de la prière. Je vous invite à avoir vos Bibles ouvertes. On va relire chaque fois le verset pour bien s'en imprégner. Donc c'est le verset 4. « Je rends continuellement grâce à mon Dieu en faisant mention de toi dans mes prières. » Alors, Paul souligne ici un élément important que toutes les dames de l'Église qui vont au groupe de dames sont totalement à l'aise maintenant. La reconnaissance. La reconnaissance. Il dit « Je rends continuellement grâce à mon Dieu » ou selon d'autres traductions, « Je dis constamment à Dieu toute ma reconnaissance. » Donc avant de demander quelque chose à Dieu, il est important de d'abord le remercier. Avant de demander quelque chose à Dieu, il est important de d'abord le remercier. C'est d'ailleurs une clé dans Philippiens 4, 6 et 7 que beaucoup connaissent par cœur. C'est un texte qui est extraordinaire. Il dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce. » C'est une des clés ici. S'il n'y a pas les actions de grâce, on prend pas quelque part le médicament tel que Dieu le demande. Hein. « Avec actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Donc les actions de grâce, c'est la reconnaissance manifestée, c'est dire merci, c'est simplement manifester notre gratitude. Donc n'hésitons jamais de dire merci à Dieu, particulièrement quand on veut lui demander quelque chose. Et cela peut être valable aussi dans nos relations. Les beaux jours arrivent. Vous savez ce qui se passe quand il fait beau et chaud? Les enfants demandent des glaces. Eh ouais? Eh bien, pourquoi pas, avant de demander une glace à vos parents, remerciez-les pour la protection, pour leur amour, pour la nourriture qu'ils donnent. Oh, il n'y a pas besoin de faire toute une liste, hein, évidemment, mais de déjà avoir cette attitude de d'abord remercier avant de demander. Évidemment, pour tous ceux qui sont enfants depuis plus longtemps, eh bien, on peut faire de même dans nos relations les uns avec les autres, évidemment. Commencez par dire notre reconnaissance à Dieu lorsqu'il y a un besoin de réconciliation, puisqu'on est dans ce thème avec Philémon. Permet de se souvenir des bienfaits dont nous avons déjà bénéficié. Et cela permet aussi de penser à ceux qui font partie de ce processus de réconciliation. Donc la reconnaissance de l'œuvre de Christ. Donc dans des moments où il faut régler quelque chose, ben, d'abord, remercier Dieu pour tout ce qu'il a déjà accompli. Et pour toutes les relations qu'on a déjà pu vivre, dans lesquelles on a pu vivre les réconciliations. Et comme je l'ai dit ici, ça permet aussi de penser à ceux qui en font partie. Et Paul souligne la reconnaissance et il dit aussi pourquoi il est reconnaissant dans le texte. Vous avez vu dans le verset 4. Pardon. Je rends continuellement grâce à mon Dieu en faisant mention de toi dans mes prières. Hein, puis il continue après parce qu'il entend parler de son amour, de sa foi, etc. Donc il est reconnaissant lorsqu'il pense à Philémon. Simplement de penser à lui, eh bien, ça suscite de la reconnaissance. Paul aime Philémon. C'est son frère dans la foi et c'est une raison de sa reconnaissance. Il aime son frère et quand il y pense, il en est reconnaissant. Et cet amour pour les frères et sœurs dans la foi n'est pas explicable humainement. C'est une œuvre du Saint-Esprit. Cet amour pour les frères et sœurs dans la foi, ce n'est pas quelque chose d'explicable. C'est vraiment une œuvre du Saint-Esprit. Et je peux vous témoigner, je l'ai vécu déjà tellement de fois. Et pas plus tard que la semaine passée, j'étais à Valence, j'ai rencontré des personnes que je ne connaissais pas et nous nous réjouissons de nous revoir parce que nous nous aimons. Je ne les connaissais pas. C'est l'œuvre de l'Esprit. C'est l'Esprit qui nous unit entre frères et sœurs dans la foi. Alors c'est la question, qu'est-ce qui nous unit, qui doit nous poser? On en a un peu parlé vendredi. Hein. Ce n'est pas un intérêt commun pour le sport, pour des projets de voyage ou le jardinage, pour ceux que j'ai vus à Valence par exemple. Je peux vous le dire, ce n'est pas ça qui nous unit. C'est l'évangile de Jésus-Christ. Et nous ne nous lassons pas de parler de notre Seigneur et de son œuvre, comme des amoureux qui ne se lassent pas de parler de l'être aimé. Donc voilà la première motivation de la reconnaissance de Paul. Simplement mentionner Philémon dans la prière l'amène déjà à être reconnaissant à cause de cet amour que Dieu met entre frères et sœurs. La deuxième motivation est ce qu'il a entendu de Philémon. Et là, c'est les versets suivants. Et remarquez qu'il ne parle pas de sa forme physique. Alors, bien sûr, Paul est sûrement reconnaissant si Philémon est en santé physiquement. Mais ce n'est pas ce qui stimule en premier sa reconnaissance. D'ailleurs, il ne le mentionne même pas. Je commence à réfléchir, puis je me suis dit, mais combien de prières ferions-nous encore si nous enlevons toutes les prières pour la santé physique et les besoins matériels ? Alors ne comprenez pas mal, ce n'est pas une mauvaise chose de prier pour la santé physique et le matériel. Mais si nous prions plus pour la santé physique que pour nos progrès dans la foi, il y a un problème. parce que l'enseignement sur la prière et les exemples de demandes de prière dans le Nouveau Testament sont de manière écrasante pour le bien spirituel des personnes, en premier. Vous savez, lorsque quelqu'un est en santé spirituellement, il peut plus facilement faire face à des situations matérielles ou physiques plus difficiles. Alors que la santé physique éloigne souvent les gens de Dieu, particulièrement ceux qui ne sont pas en bonne santé spirituelle, parce qu'ils ont alors l'impression qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Réfléchissons quelques instants à ce que dit Jean dit dans 3 Jean 1, verset 2. Et j'aimerais que, donc je vais vous lire le texte, mais j'aimerais que vous réfléchissiez à qu'est-ce qui est la référence. Hein, dans le texte, la référence est introduite par le mot « comme ». Hein, je pourrais prendre un exemple. C'est comme si l'on disait « sois fidèle comme Joseph ». La référence, ce n'est pas vous, mais c'est Joseph. « Sois fidèle comme Joseph ». Comprenez l'idée. Alors, voilà ce qu'il est dit dans 3 Jean 2. Vous allez me dire si c'est la santé du corps ou la santé de l'âme qui est la référence. Il dit ceci, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère ton âme. » Comme quoi ? Comme la santé spirituelle de ton âme. C'est ça la référence. Ainsi, Jean souhaite que Gaius, qui reçoit sa lettre, soit en bonne santé physique. Il le lui souhaite, évidemment. Mais en ayant l'âme en bonne santé, pas pour avoir l'âme en bonne santé, afin qu'il ait une bonne santé, afin que la bonne santé physique soit la base de son âme en bonne santé. Non. Dans la lettre à Philémon, Paul est conscient de la priorité de la santé spirituelle. Voilà pourquoi il se réjouit et est rempli de reconnaissance pour l'amour, la foi et la communion de Philémon. Voilà ce qui le réjouit. C'est l'élément principal. Vous avez peut-être vu déjà des personnes qui sont malades dans des situations difficiles, qui sont rayonnantes et heureuses et qui témoignent de leur foi. Et vous avez aussi déjà vu des personnes qui sont physiquement en pleine santé, qui ont tout ce qu'il faut, et qui râlent, et qui parlent en mal de Dieu, etc. Donc Paul, dans la lettre à Philémon, est conscient de la priorité de la santé spirituelle. Voilà pourquoi il se réjouit et est rempli de la reconnaissance, pour l'amour, la foi et la communion de Philémon. On va développer encore ces quelques éléments dans les prochains points, mais j'aimerais encore souligner quelques éléments concernant la prière. On a déjà vu donc que Paul remercie avant de demander. Paul dit pourquoi il est reconnaissant, hein, pour Philémon, sa foi et son amour. Et au verset 7, il indiquera même sa joie et sa consolation. Paul, troisièmement, prie premièrement pour les besoins spirituels en priorité. Hein, c'est ce qu'on vient de voir. Et j'aimerais qu'on vous donne quelques autres éléments. Un élément suivant, c'est que Paul souligne que la prière n'est pas ponctuelle, mais continuelle. Elle n'est pas ponctuelle, mais continuelle. Hein, je rends continuellement grâce à mon Dieu. Cela nous enseigne la persévérance. Et la persévérance, ce n'est pas seulement quelque chose qui est difficile, où il faut tenir jusqu'au bout pour qu'on y arrive. C'est vrai que parfois il y a de l'effort dans l'exercice de la prière persévérante. Mais la persévérance, c'est aussi la délectation de se souvenir de personnes aimées. C'est la délectation de se souvenir de tout ce que Christ a accompli, de se souvenir de l'œuvre de Dieu régulière. Quelle grâce de se rappeler régulièrement des choses que Dieu a faites et qui nourrissent notre reconnaissance. Et cette persévérance-là, quelque part, elle n'est pas difficile, elle est bonne. Donc Paul souligne que la prière n'est pas ponctuelle. Ensuite, un autre élément, c'est que Paul informe Philémon qu'il prie régulièrement pour lui. Il l'informe, il lui dit « Je prie régulièrement pour toi ». Quel encouragement de savoir que des gens prient pour nous. Quel encouragement pour Philémon de savoir que Paul priait pour lui. Franchement, c'était quand même particulier pour Philémon. Cet apôtre que Dieu avait utilisé pour fonder tant d'églises priait pour lui, Philémon. Et le Saint-Esprit, ayant inspiré le livre de Philémon, n'aurait pas permis que Paul écrive quelque chose qu'il ne faisait pas. Si Paul le dit, c'est qu'il le fait. Alors, si vous dites que vous priez pour quelqu'un, c'est bien, mais faites-le. Sinon, ne lui dites pas. Alors pour ma part, je vous donne un petit truc qui m'aide. Comme ça, ça peut aussi peut-être vous aider. C'est que lorsque... Parce que je suis oublieux, hein. Enfin, moi, j'oublie beaucoup, donc j'ai besoin de rappel, de choses qui m'aident. Mais quand je dis à quelqu'un que je prie pour cette personne, je le fais directement, en fait. Ça, c'est fait, je le fais. C'est pas juste je prie pour toi, puis on passe à autre chose, non. C'est le faire. Ainsi, je suis sûr que ce que je dis est vrai. Et je vous encourage à avoir cette même attitude. Vous pouvez même le faire plusieurs fois, évidemment, par la suite, sans le dire chaque fois. Mais c'est important de ce qu'on dit soit vrai. Et Paul, il dit ça à Philémon, ça l'encourage. Je ne peux pas vous dire le nombre de fois que j'ai entendu que les gens priaient pour moi et pour nous ici, l'Église. L'encouragement que c'est juste énorme. On n'est pas seul. Un autre élément de prière encore ici, c'est que Paul précise à Philémon ce qu'il demande dans sa prière. Il lui dit pourquoi il prie. Et en fait, c'est aussi un encouragement pour Philémon de véritablement chercher ces choses-là. Quand Paul lui dit « je prie pour ton amour, pour ta foi, pour ta communion », eh bien, qu'est-ce que Philémon va chercher à vivre ? Mais il va chercher à vivre cela. Il va y mettre toutes ses forces, toutes ses capacités, tout en étant pleinement convaincu et conscient que cette force vient de Dieu. Et Paul prie justement pour cela. Parce que prier ou demander à Dieu un progrès spirituel, certaines fois disent « Seigneur, aide-moi à grandir dans la foi ». Et vous ne faites rien. C'est se moquer de Dieu. C'est se moquer de Dieu. On ne peut pas demander quelque chose à Dieu et ne pas mettre toutes les forces et les capacités qu'il nous a déjà données pour accomplir ce que l'on demande, en étant complètement conscient de notre dépendance de Dieu. La prière est puissante. La prière est le premier ingrédient pour la réconciliation. Paul le sait, c'est pour ça qu'il le souligne, c'est pour ça qu'il le vit. Et le dernier élément de la prière que nous venons de voir, hein, Paul précise à Philémon ce qu'il demande dans sa prière, eh bien nous allons justement en parler dans notre prochain point pour un deuxième ingrédient important pour la réconciliation. C'est le verset 5 que j'ai intitulé « La foi manifestée par l'amour ». Regardez avec moi le verset 5. « Car j'entends parler de l'amour et de la foi dont tu fais preuve envers le Seigneur Jésus pour tous les saints. » Dans ce verset, nous avons deux actions de Philémon. Vous voyez ces deux actions ? C'est quoi ces deux actions ? Verset 5 ? L'amour et la foi. Deux actions, exactement. Et ces deux actions, en fait, sont faites pour deux récepteurs de ces actions. Qui sont les deux récepteurs ici ? Jésus-Christ et les saints. Hein ? Or, la Bible à la colombe que nous utilisons a cherché à rendre le texte avec les mots originaux dans le bon ordre. Hein. Et ce que ne fait pas, par exemple, la seconde 21, hein, qui dit le texte du verset 5, il dit ici « Car j'entends parler de ta foi dans le Seigneur Jésus et de ton amour pour les saints. » Donc, il parle de foi du Seigneur Jésus, de l'amour pour les saints. Dans la colombe, on a le foi, la foi et l'amour pour le Seigneur Jésus et pour les saints. La foi est pour le Seigneur Jésus-Christ et l'amour pour les saints, ce qui me semble correct d'ailleurs. Car nous n'avons pas une foi identique en Christ et aux saints. Bien sûr qu'on a une confiance les uns aux autres, mais ce n'est pas la même que celle qu'on place en Jésus-Christ pour notre salut. Donc le texte à la colombe est à voir comme un chiasme. Oula, un drôle de mot ça. Vous vous rappelez des chiasmes ? On en a déjà parlé, ça fait fort longtemps, quand on parlait des psaumes et des poèmes, etc. Hein? Un chiasme, c'est comme un texte en miroir avec un centre. Donc, c'est un texte en miroir. Et donc, ici, on a dans ce verset l'amour au début qui est lié avec les saints à la fin. Puis ensuite, on a la foi au milieu qui est liée avec Jésus-Christ au milieu. Voilà. Donc, ça se répond. C'est ainsi qu'est un chiasme. Donc on a l'amour au début qui est lié au saint et à la fin, et la foi au milieu qui est liée à Jésus-Christ. On a cette structure A, B', A'. Ça, si jamais c'est sur les notes. Alors si j'ose avancer cette thèse que Paul souligne la foi en Jésus-Christ et l'amour envers les saints, c'est parce que d'autres textes qu'il a écrits au même moment le soulignent. Ce n'est pas juste parce que j'ai une idée comme ça que je trouve ça sympathique. Si on regarde dans Colossiens 1.4, on pourrait rester dans Philémon avec un doigt et puis on va chercher Colossiens, puisque Colossiens, il l'a écrit en même temps que cette lettre à Philémon. Et dans Colossiens 1, verset 4, ici, nous avons en effet entendu parler de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour les saints. Ça confirme cette notion, la foi en Christ et l'amour pour les saints. Ou encore dans Éphésiens, puisque Éphésiens a aussi été écrit dans cette même période, Éphésiens 1, verset 15, où il est dit « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour les saints. » Foi en Jésus, amour pour les saints. Donc ça, c'est quelque chose qui est très fort. Et notez bien qu'il n'est pas écrit une croyance ou d'une religion quelconque et l'amour pour n'importe qui. Non, ce n'est pas ça qu'il est écrit. Le texte est clair et limpide. Il n'y a qu'un seul chemin pour le salut, la foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ. Et Jésus a prévu un moyen pour que tous reconnaissent ses disciples. L'amour entre disciples, ou autrement dit, l'amour pour les saints. Vous voyez ? Donc c'est très clair, ce texte en fait nous dirige sur les fondements. Hein ? Donc la foi en Jésus-Christ qui est le moyen du salut, et l'amour pour les saints qui est le moyen que tous reconnaissent les disciples de Jésus. Ça c'est Jean 13, 34, 35 qui nous le dit. Vous savez, il n'est pas possible d'avoir la foi en Christ sans l'amour selon Christ. Ça va ensemble. On ne peut pas avoir un ou l'autre. Ou l'amour selon Christ sans la foi en Christ. Ce n'est pas possible. Comme la tête ne peut pas être sans le corps, ou le corps sans la tête. Nous ne pouvons pas avoir la foi en Christ, la tête, sans aimer le corps qu'est l'Église, les saints. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, on ne peut pas aimer le corps que sont les saints sans avoir foi en celui qui est la tête, en Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. Ça va ensemble, c'est lié. C'est comme deux faces d'une pièce. Si on n'a pas les deux faces, la pièce, elle ne vaut rien du tout. Et Jean dira dans 1 Jean 4, 20, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haï son frère, c'est un menteur. C'est la Bible qui le dit, hein, 1 Jean 4, 20. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. La foi de Philémon est vivante et réelle, car il la manifeste par l'amour envers les saints. Elle est manifestée. Et là, on peut se poser la question, est-ce que notre foi se voit dans l'amour que nous avons pour les frères et sœurs dans la foi ? Celui qui dit avoir la foi sans manifester un amour réel pour les frères et sœurs dans la foi, avec une réelle affection, même si la profondeur peut varier. Jésus avait 12 disciples, il les aimait tous, il en avait 3, il était plus proche, puis encore plus proche. Ça, c'est la proximité relationnelle qui est différente. Mais pas l'amour fraternel. Cet amour-là, elle est pour tous. Or, si cet amour n'est pas présent, et chacun peut examiner son cœur, ce n'est pas moi qui peux le savoir, vous savez dans votre propre cœur si vous avez de l'amour, ou si vous devez faire un effort, dire « bon, il faut que je revoie un peu ces personnes, il faut que je sois là, c'est difficile, bon, ben voilà, on fera avec, parce que c'est quand même bien d'aller à l'église de temps en temps. » Ça, c'est vous qui savez, c'est dans votre cœur. Mais si l'amour n'est pas présent, la foi ne l'est pas non plus. Ça, c'est un fait. La personne qui croit avoir la foi sans l'amour se trompe elle-même. Ce n'est pas possible. C'est très clair. Ce n'est pas possible. Donc, si vous vous sentez mieux avec des gens du monde qu'avec des croyants qui veulent grandir dans la foi, qui sont passionnés pour Christ, qui cherchent la sainteté, c'est votre choix. Vous êtes libre. Mais ne pensez pas et ne dites pas que vous avez la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. Et pour ceux qui ont la foi et qui ont cet amour pour les saints en eux, je nous encourage à nourrir ces relations. C'est important. Nourrir ces relations, à chercher à se connaître, à se soutenir, à manifester concrètement cette affection que nous avons dans le cœur pour ceux qui sont en Christ. Comme Philémon le manifestait d'une manière visible qui a pu être transmise à Paul. Ils ont pu lui dire, voilà ce qu'il fait, voilà comment il pratique l'amour. Il reçoit l'information, il comprend que c'est par amour et il en est encouragé et ça l'amène à la reconnaissance. La foi accompagnée de l'amour pour les croyants est un ingrédient important et puissant pour la réconciliation. C'est cet amour entre frères et sœurs. Moi, quand j'ai deux personnes qui sont dans la foi, j'ai toujours espoir d'une réconciliation. Parce que Dieu a mis un amour dans nos cœurs les uns pour les autres. Je n'ai pas dit que c'était facile, mais Dieu a mis cet amour. Et c'est là-dessus qu'on peut s'appuyer. Et Philémon ne sait pas encore que Onésime est maintenant un croyant. Il ne le sait pas encore. Hein. Et cette transformation, comme nous le verrons lors de la prochaine prédication, est justement le terrain qui rend la réconciliation possible. Si Onésime était encore dans la rébellion, la réconciliation ne serait pas possible, malgré toute la foi et l'amour de Philémon. Mais avant de parler de cela, Paul veut encore souligner d'autres éléments importants pour la réconciliation. Nous avons vu donc premièrement la puissance de la prière pour la réconciliation. Deuxièmement, nous venons de voir ici la foi manifestée par l'amour qui sera un puissant soutien pour la réconciliation. Voyons maintenant ce qui se trouve au verset 6. Alors lisons ce verset 6. Donc là, c'est Paul qui dit à Philémon ce qu'il fait devant Dieu. Il dit « Je lui demande que la communion de ta foi devienne agissante et que tu reconnaisses tout ce qui pour nous est le bien en vue de Christ. » Vous avez compris ? Moi, il m'a fait transpirer ce verset, hein, je dois vous dire. Il m'a fait transpirer. Et je me demande si vous arrivez à le comprendre en le lisant comme ça. Il me semble qu'il n'est déjà pas très facile en le lisant dans notre version, là. Et quand vous allez commencer à voir les autres versions, vous vous rendrez compte que même s'il n'y a pas de contradiction sur le sens, il n'y a pas du tout d'unanimité dans la manière de traduire ce verset en français. En fait, c'est la façon d'utiliser et de comprendre le terme traduit par « communion » qui va totalement changer la façon de voir la chose. Alors moi, je ne vais pas vous faire tout le développement textuel, etc., de l'exégèse. C'est intéressant, mais ce n'est pas le lieu ici. Si quelqu'un s'intéresse, on pourrait le faire ensemble, pourquoi pas. J'aimerais simplement vous donner une conclusion. Voilà, comme ça, vous avez déjà directement la conclusion sans avoir fait ce travail. Et je la tire en fait d'un commentaire de Douglas Moe qui va paraphraser ce verset 6 pour mieux le comprendre. Alors, je vais vous lire cette paraphrase. Donc, c'est un peu plus long parce que quand on essaie d'expliquer ce qui se passe, ben, on prend un peu plus de phrases. Donc là, je vais simplement vous le lire pour que vous puissiez le saisir. Alors, Paul dit ceci, donc en paraphrase, « Je prie pour que la participation mutuelle qui procède de ta foi en Christ devienne efficace. » Donc, que la participation mutuelle qui procède de ta foi en Christ, mutuelle dans la communion avec les autres croyants, hein, deviennent efficaces en t'amenant à comprendre et en mettre en pratique tout le bien que Dieu veut pour nous et qui se trouve dans notre communauté. Fais-le pour la cause de Christ. Alors, je ne sais pas si ça vous a beaucoup aidé. Alors, je vais encore vous donner un autre texte, c'est celui de la transcription de Alfred Kuhn. Il existe une Bible qui s'appelle Parole vivante. Oui, c'est ça, Parole vivante. Et puis, en fait, ce n'est pas une traduction de la Bible. C'est une transcription. C'est-à-dire, on a pris toutes les traductions possibles, puis ensuite, on cherche à mettre dans le texte tous les éléments des différentes façons de comprendre les termes ici dans ce texte. Donc, c'est une compilation de nombreuses traductions qui fait que le texte est souvent un peu plus long d'ailleurs, puisqu'on donne les différentes nuances, alors que les traducteurs souvent choisissent une direction. Alors, je vous lis le texte ici de Philémon 6 dans cette transcription qui dit « Je demande à Dieu que cette foi qui nous est commune continue à se montrer efficace en toi. » Ça rejoint ce qu'on a vu tout à l'heure. « Qu'elle porte des fruits en t'inspirant des actes de générosité et qu'elle se communique à d'autres. » Que tu puisses reconnaître et apprécier de mieux en mieux les bénédictions qui sont les nôtres en Christ et comprendre pleinement le bonheur que nous avons à marcher avec lui. Donc là, on a un peu maintenant creusé ce texte, hein, ça, c'est aussi dans la méditation, on fait ça en fait, on creuse, on essaie de le comprendre. Et puis là, en bref, je dirais que Paul demande à Dieu que Philémon vive concrètement la communion, qu'il vive concrètement cette communion. Et Philémon ne doit pas s'appuyer sur une communion passée. Ce lien entre membres du corps de Christ est quelque chose de continuel. On ne peut pas juste dire « j'ai eu une super communion avec des chrétiens il y a 10 ans ». Et maintenant ? Ah non, mais il y a 10 ans, j'avais une super communion. Non, c'est quelque chose qui continue. C'est super qu'il y en ait une il y a 10 ans, oh, c'est très bien, ça peut nous encourager. Mais c'est pas, on ne s'appuie pas sur le passé. Et Paul demande aussi à Philémon de comprendre que tout ce qu'il vit dans les relations entre les saints, il le fait pour Christ et avec Christ. Pour illustrer cela, on pourrait imaginer un personnage passionné par le jardinage. Jardinage, il a reçu un lopin de terre qui appartient à un riche propriétaire. Et ce jardinier a, pendant une année, a cultivé des fleurs magnifiques, aux couleurs variées. Des oiseaux et des abeilles venaient, les odeurs apaisaient les gens, et même le potager était fourni et bien entretenu. Ouais, mais l'année suivante, il ne doit pas s'arrêter de prendre soin du jardin, en s'appuyant sur son travail passé. Ceux qui ont déjà jardiné, vous savez comment ça marche, hein. Super jardin, puis ensuite l'année suivante, on se dit, ben, comme il était super, on ne fait plus rien, puis tout va. Ben non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ils font continuer à entretenir le jardin. Et de plus, il doit comprendre que cette terre appartient à un propriétaire et qu'il en a définitivement celui qui jouit de son travail et qui lui fournit les semences, les outils et tous les moyens pour y travailler efficacement. Alors, comme Philémon, nous sommes encouragés à ne pas nous reposer sur les belles relations que nous aurions pu vivre dans le passé. On s'en réjouit, mais on ne s'y repose pas. Vous voyez la différence ? On s'en réjouit, donc... Nous sommes encouragés à ne pas nous reposer sur les belles relations que nous avons pu vivre dans le passé et continuer à entretenir les relations présentes parmi les saints où Dieu nous a placés. Comme Philémon, nous avons besoin de nous rappeler que notre objectif, notre motivation, c'est d'agir de manière qui plaise à Dieu. C'est pour lui, en fait. C'est pour lui, premièrement, que je veux même avoir de l'amour pour ceux qui sont autour de moi. Ça peut vous faire bizarre, vous dire « Attends, non, mais ça doit venir de ton cœur, c'est toi qui dois le vouloir. C'est pas pour Dieu que tu aimes les autres. » Si, c'est pour Dieu que nous aimons les autres. Et dans cette œuvre, ça vient de nous aussi, nous sommes pleinement impliqués, évidemment, c'est pas détaché. Donc, nous cherchons d'agir d'une manière qui plaise à Christ pour le glorifier, et c'est ainsi que nous nous épanouirons. Pourquoi ? Parce que Dieu nous a créés pour cela, en fait. Donc, être attentif aux relations et saisir les sources être attentif aux relations et saisir la source de nos moyens et le but de nos efforts sera un puissant outil aussi pour vivre les réconciliations. Philémon devra travailler à la relation avec Onésime, avec qui d'ailleurs il ne peut pas s'appuyer sur une relation harmonieuse passée. Philémon devra également se rappeler où trouver les outils et dans quel but vivre cette réconciliation avec Onésime afin de rendre gloire à Dieu. Paul, avant d'exposer sa demande à Philémon, hein, ça arrivera dès le verset 8, c'est ça, on verra dès la prochaine fois, mais encore le verset 7, il donne un dernier élément important et utile pour la réconciliation. On va lire le verset 7 que j'ai intitulé « Le réconfort qui tranquillise ». J'ai eu en effet beaucoup de joie et de consolation à cause de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Et Paul a des témoins de première main. Le pasteur de Philémon est avec lui. Hein, Épaphrodite est avec lui à Rome. Et il peut lui raconter tout ce que Onésime... Philémon, des fois je me trompe entre les deux, pardon, tout ce que Philémon donc a vécu hein, dans cet amour les uns avec les autres, avec les frères, et où il a même pu être quelqu'un qui tranquillisait, qui réconfortait les autres. Hein. Et Onésime, c'est bien clair que il n'avait pas une bonne, je pense qu'il n'avait pas une bonne pensée face à son maître. Quand on voit un petit peu la description qui viendra par la suite. Mais maintenant qu'il est transformé, il a une nouvelle vision du passé, en fait. Et il peut lire ce qu'il a vécu en voyant, en fait, la bonté de Philémon, qui a tranquillisé les gens, ou peut-être encore mieux dit, réconforté les saints, puisqu'il était dans la maison avec Philémon. Or, Paul, comme nous, est réjoui d'apprendre les nouvelles d'un amour manifesté, et une stabilité relationnelle dans une église et avec des individus en particulier. Quand vous connaissez une église, vous connaissez des gens que vous aimez et qui vous disent « Mais on a des bonnes relations, ça s'approfondit, qu'est-ce que ça nous fait ?» Ça nous réjouit, ça nous donne la joie, ça nous donne la banane, comme diraient certains. Hein ? Eh bien, c'est ce que Paul dit ici. Vous savez, Paul est en prison. Ce n'est pas tout facile, la prison, quand même. Des fois, on embellit un peu les choses. Il ne faut pas non plus trop la noircir. Mais c'est un temps difficile. Et l'apôtre Paul peut se dire, est-ce que ça vaut vraiment la peine de rester fidèle ? Il peut même parfois être triste de son sort non enviable. Et là, dès qu'il reçoit ces nouvelles, il est consolé. Oui, ça vaut la peine de rester fidèle. Parce que ça les encourage aussi, et eux m'encouragent. Il est consolé à cause de l'amour de Philémon, qui a d'ailleurs vraisemblablement, c'est Paul d'ailleurs qui a amené Philémon au salut. On le verra un peu par la suite. Et donc, de voir que cette personne qu'il a amenée au Seigneur continue à être fidèle, il dit, ça vaut la peine de rester fidèle. Ça me console dans ces situations qui sont parfois difficiles. Le commentaire de la Bible d'études Vie Nouvelle, que je vous recommande d'ailleurs, nous dit ceci par rapport à ce verset. Ça, je vous le lis, ça, c'est intéressant. Philémon a manifestement sur les autres chrétiens le même effet restaurateur que de l'eau fraîche pour des randonneurs. C'est joli, non ? Donc Philémon a manifestement sur les autres chrétiens le même effet restaurateur que de l'eau fraîche pour des randonneurs. Il est capable de ranimer et fortifier leur foi. Ranimer, fortifier leur foi. Son amour et sa générosité les stimulent tout en encourageant Paul. Et là, le commentaire, si vous avez cette Bible d'étude, vous verrez que chaque fois, il ne s'arrête pas sur le texte, il va dire « Et vous ?» Bon, on va voir ce qu'il nous dit aujourd'hui. Quel est notre impact sur les autres ? Sommes-nous des sources de rafraîchissement ou ajoutons-nous au poids qui pèse sur eux par notre manière d'être et de faire ? Au lieu d'épuiser et démotiver notre entourage en lui rabâchant nos plaintes et nos problèmes, cherchons à lui apporter une nouvelle énergie par nos encouragements, notre amour et une attitude constructive. Et mes chers frères et sœurs, ce n'est pas en nous que nous trouvons la force ultime. Oui, on a des forces et on va les utiliser, mais ce n'est pas en nous qu'on trouve la force ultime, la motivation profonde, l'humilité, la douceur, le courage nécessaire. C'est des choses, quelqu'un qui n'a pas Christ, à un moment donné, il ne va pas pouvoir le vivre. Il ne va pas chercher à vivre pour la gloire de Dieu, il ne va pas chercher à vivre dans la sainteté, il ne va pas chercher à vivre dans l'humilité. Or, c'est vrai que parfois, certains ont certaines douceurs. Dieu donne des capacités, c'est vrai, dans sa grâce générale. Mais ces éléments ultimes, ce n'est pas en nous qu'on les a, c'est en Christ. Et nous sommes appelés à utiliser les capacités, les forces qu'il nous donne, mais en vivant unis à Christ. Unis à lui. Voilà pourquoi on a lu le texte du sarment lié au cep. Unis à lui, demeurer en Christ. Et ainsi, nous pourrons réellement être une joie et un réconfort qui tranquillise ceux qui sont autour de nous. Lorsque nous cherchons à trouver la force vers les personnes qui sont autour de nous, nous allons les épuiser. Alors que si nous cherchons la force auprès de Christ, lui, nous n'allons jamais l'épuiser. Il a la capacité de nous encourager, de nous fortifier. C'est Jésus-Christ qui nous donne cette merveilleuse grâce d'être consolé, tranquillisé, réconforté, renouvelé. Et toutes nos entrailles, parce que c'est même le mot qui est utilisé ici, et toutes nos entrailles sont apaisées en Christ. Donc la question c'est, es-tu tourmenté ? C'est vers Jésus-Christ qu'il faut se tourner. Lui pourra apaiser la tempête de ton âme. Le réconfort que nous trouvons auprès de Jésus-Christ sera un puissant outil pour la réconciliation. Parce que si nous-mêmes sommes tourmentés, c'est très difficile de chercher une réconciliation avec quelqu'un d'autre. Alors que lorsque nous sommes apaisés par Christ, eh bien c'est un outil que Dieu nous donne pour vivre cette réconciliation. Rappelons-nous que Paul, guidé par le Saint-Esprit, écrit cette lettre à Philémon principalement pour la réconciliation avec Onésime. Et que tous ces éléments qu'il indique font partie de cette œuvre-là. Cette lettre est courte, mais riche. Et dans les versets 4 à 7 de Philémon, nous avons vu bien des enseignements et particulièrement quatre ingrédients essentiels pour la réconciliation. Est-ce que vous arrivez à les dire ? Alors, verset 4, c'est chaque fois le verset. Hein. Au verset 4, qu'est-ce qu'on a vu comme outil, ingrédient essentiel pour la réconciliation ? La puissance de la prière, excellent. Hein ? Ensuite, au verset 5, la foi manifestée par l'amour, excellent. Ouais. Ensuite, au verset 6, la communion agissante, hein, le jardinier qui cultive. Et puis le dernier, le réconfort tranquillisant, être un rafraîchissement pour les autres. en puisant en Christ. Donc, tel un artisan de paix qui utilise sa main de paix reliée par le poignet qui est l'évangile de Jésus-Christ, Philémon sera amené à rechercher la réconciliation avec Onésime. Et nous verrons la prochaine fois que le fait que Onésime a ôté de sa poutre, lui le rebelle, le fugitif qui voulait vivre sa vie tout seul, sa transformation sera le point de départ de la réconciliation. Ça, nous le verrons la prochaine fois. Et en attendant la prochaine prédication sur Philémon, je vous encourage ou je nous encourage à continuer à méditer ce petit livre biblique pour vous-même. N'hésitez pas à le relire, à vous en imbiber. Et pourquoi pas aujourd'hui se dire, je vais mettre une chose en pratique que j'ai entendue ce matin. Ça peut être la prière. Avant de demander une glace, je vais d'abord dire merci pour quelque chose. Et je vais aussi mettre la priorité sur les besoins spirituels lorsque je prie. Je vais le faire avec persévérance et intentionnalité. Tout ceci soutenu par Jésus-Christ, guidé par le Saint-Esprit et nous adressant au Père. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous sommes dans la reconnaissance de voir que tu nous donnes dans ta parole une lettre qui est écrite à 4 destinataires, comme nous l'avons vu la dernière fois, qui n'est pas quelque chose de caché, qui est ouvert, et en même temps qui est très personnel. Nous voyons Paul qui parle à Philémon. Et Seigneur, nous te remercions parce que tu nous donnes là un exemple, un encouragement à préparer les réconciliations que nous désirons voir. Que ce soit celles que nous vivons nous-mêmes avec d'autres, que ce soit celles que nous désirons voir vivre chez d'autres, et surtout, Seigneur, que ce soit celle que nous voulons voir vivre avec toi. Donne-nous cette grâce, Seigneur, d'utiliser ces moyens que tu nous donnes, de vivre réellement cette notion de la prière, de chercher à appliquer la foi dans l'amour, à vivre cette communion, et à chercher, Seigneur, à être ce rafraîchissement, ce tranquillisant, parce que nous puisons en toi ce que nous pouvons donner aux autres. Ô permets, Seigneur, que nous puissions vivre dans cette perspective et que cette semaine soit remplie de ta grâce. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez entendre d'autres prédications ou profiter de ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.